Livre 7, deuxième partie. Je crus ma sottise oubliée. Je me trompais. Monsieur de Franqueuil, fils de Monsieur Dupin et beau-fils de Madame, était à peu près de son âge et du mien. Il avait de l'esprit, de la figure. Il pouvait avoir des prétentions. On disait qu'il en avait auprès d'elle, uniquement peut-être parce qu'elle lui avait donné une femme bien laide, bien douce, et qu'elle vivait parfaitement bien avec tous les deux. Monsieur de Franqueuil aimait et cultivait les talents. La musique, qu'il savait fort bien, fut entre nous un moyen de liaison. Je le vis beaucoup, je m'attachais à lui. Tout d'un coup, il me fit entendre que Madame Dupin trouvait mes visites trop fréquentes et me priait de les discontinuer. Ce compliment aurait pu être à sa place quand elle me rendit ma lettre, mais 8 ou 10 jours après, et sans aucune autre cause, il venait, ce me semble, hors de propos. Cela faisait une position d'autant plus bizarre que je n'en étais pas moins bienvenue qu'auparavant chez Monsieur et Madame de Franqueuil. J'y allais cependant plus rarement, et j'aurais cessé d'y aller tout à fait si, par un autre caprice imprévu, Madame Dupin ne m'avait fait prier de veiller pendant 8 ou 10 jours à son fils, qui, changeant de gouverneur, restait seul durant cet intervalle. Je passais ces 8 jours dans un supplice que le plaisir d'obéir à Madame Dupin pouvait seul me rendre souffrable. Car le pauvre Chenonceau avait dès lors cette mauvaise tête qui a failli déshonorer sa famille et qui l'a fait mourir dans l'île de Bourbon. Pendant que je fus auprès de lui, je l'empêchais de faire du mal à lui-même ou à d'autres. Et voilà tout. Encore ne fût-ce pas une médiocre peine, et je ne m'en serais pas chargé 8 autres jours de plus quand Madame Dupin se serait donnée à moi pour récompense. Monsieur de Franqueuil me prenait en amitié. Je travaillais avec lui. Nous commençâmes ensemble un cours de chimie chez Rouelle. Pour me rapprocher de lui, je quittai mon hôtel Saint-Quentin et vins me loger au jeu de paume de la rue Verdelet, qui donne dans la rue Plâtrière, où logeait Monsieur Dupin. Là, par suite d'un rhume négligé, je gagnai une fluxion de poitrine dont je faillis mourir. J'ai eu souvent dans ma jeunesse de ces maladies inflammatoires, des pleurésies, et surtout des esquinancies auxquelles j'étais très sujet, dont je ne tiens pas ici le registre, et qui m'ont toutes fait voir la mort d'assez près pour me familiariser avec son image. Durant ma convalescence, j'eus le temps de réfléchir sur mon état et de déplorer ma timidité, ma faiblesse et mon indolence, qui, malgré le feu dont je me sentais embrasé, me laissait languir dans l'oisiveté d'esprit toujours à la porte de la misère. La veille du jour où j'étais tombé malade, j'étais allé à un opéra de Royer qu'on donnait alors et dont j'ai oublié le titre. Malgré ma prévention pour les talents des autres, qui m'a toujours fait défier des miens, je ne pouvais m'empêcher de trouver cette musique faible, sans chaleur, sans invention. J'osais quelquefois me dire « Il me semble que je ferais mieux que cela ». Mais la terrible idée que j'avais de la composition d'un opéra et l'importance que j'entendais donner par les gens de l'art à cette entreprise m'en rebutait à l'instant même et me faisait rougir d'oser y penser. D'ailleurs, où trouver quelqu'un qui voulût me fournir les paroles et prendre la peine de les tourner à mon gré? Ces idées de musique et d'opéra me revinrent durant ma maladie, et dans le transport de ma fièvre, je composai des chants, des duos, des chœurs. Je suis certain d'avoir fait 2 ou 3 morceaux di prima intenzione, dignes peut-être de l'admiration des maîtres, s'ils avaient pu les entendre exécuter. Oh, si l'on pouvait tenir registre des rêves d'un fiévreux, quelles grandes et sublimes choses on verrait sortir quelquefois de son délire. Ces sujets de musique et d'opéra m'occupèrent encore pendant ma convalescence, mais plus tranquillement. À force d'y penser, et même malgré moi, je voulus en avoir le cœur net et tenter de faire à moi seul un opéra, paroles et musique. Ce n'était pas tout à fait mon coup d'essai. J'avais fait à Chambéry un opéra tragédie intitulé « Iphis et Anaxarète » que j'avais eu le bon sens de jeter au feu. J'en avais fait à Lyon un autre intitulé « La découverte du Nouveau Monde » dont, après l'avoir lu à M. Borde, à l'abbé de Mably, à l'abbé Trublet et à d'autres, j'avais fini par faire le même usage. Quoique j'eusse déjà fait la musique du prologue et du premier acte, et que David m'eût dit, en voyant cette musique, qu'il y avait des morceaux dignes de Buononcini. Cette fois, avant de mettre la main à l'œuvre, je me donnais le temps de méditer mon plan. Je projetais, dans un ballet héroïque, trois sujets différents, en trois actes détachés, chacun dans un différent caractère de musique. Et, prenant pour chaque sujet les amours d'un poète, j'intitulais cet opéra « Les Muses galantes ». Mon premier acte, en genre de musique forte, était le Tasse. Le second, en genre de musique tendre, était Ovide. Et le troisième, intitulé Anacréon, devait respirer la gaieté du dithyrambe. Je m'essayais d'abord sur le premier acte, et je m'y livrai avec une ardeur qui, pour la première fois, me fit goûter les délices de la verve dans la composition. Un soir, près d'entrer à l'opéra, me sentant tourmenté, maîtrisé par mes idées, je remets mon argent dans ma poche, je cours m'enfermer chez moi. Je me mets au lit, après avoir bien fermé mes rideaux pour empêcher le jour d'y pénétrer. Et là, me livrant à tout l'estre poétique et musical, je composai rapidement, en 7 ou 8 heures, la meilleure partie de mon acte. Je puis dire que mes amours pour la princesse de Ferrare, car j'étais le Tasse pour l'or, et mes nobles et fiers sentiments vis-à-vis de son injuste frère, me donnèrent une nuit 100 fois plus délicieuse que je ne l'aurais trouvée dans les bras de la princesse elle-même. Il ne resta le matin dans ma tête qu'une bien petite partie de ce que j'avais fait. Mais ce peu, presque effacé par la lassitude et le sommeil, ne laissait pas de marquer encore l'énergie des morceaux dont il offrait les débris. Pour cette fois, je ne poussais pas fort loin ce travail, en ayant été détourné par d'autres affaires. Tandis que je m'attachais à la maison du pain, Madame de Besinval et Madame de Brolier, que je continuais de voir quelquefois, ne m'avaient pas oublié. Monsieur le comte de Montaigu, capitaine aux gardes, venait d'être nommé ambassadeur à Venise. C'était un ambassadeur de la façon de Barjac, auquel il faisait assidûment sa cour. Son frère, le chevalier de Montaigu, gentilhomme de la Manche de Monseigneur le Dauphin, était de la connaissance de ces deux dames et de celle de l'abbé Alary de l'Académie française que je voyais aussi quelquefois. Madame de Brolier, sachant que l'ambassadeur cherchait un secrétaire, me proposa. Nous entrâmes en pourparlers. Je demandai 50 louis d'appointement, ce qui était bien peu dans une place où l'on est obligé de figurer. Il ne voulait me donner que 100 pistoles, et que je fisse le voyage à mes frais. La proposition était ridicule. Nous ne pûmes nous accorder. Monsieur de Franqueuil, qui faisait ses efforts pour me retenir, l'emporta. Je restai, et monsieur de Montaigu partit, emmenant un autre secrétaire appelé monsieur Follot, qu'on lui avait donné au bureau des affaires étrangères. À peine furent-ils arrivés à Venise qu'ils se brouillèrent. Follot, voyant qu'il avait affaire à un fou, le planta là, et monsieur de Montaigu, n'ayant qu'un jeune abbé appelé monsieur de Binis, qui écrivait sous le secrétaire et n'était pas en état d'en remplir la place, eut recours à moi. Le chevalier et son frère, homme d'esprit, me tourna si bien, me faisant entendre qu'il y avait des droits attachés à la place de secrétaire, qu'il me fit accepter les 1000 francs. J'eus 20 louis pour mon voyage, et je partis. À Lyon, j'aurais bien voulu prendre la route du Mont-Cenis pour voir en passant ma pauvre maman. Mais je descendis le Rhône et fus m'embarquer à Toulon, tant à cause de la guerre et par raison d'économie, que pour prendre un passeport de monsieur de Mirepoix, qui commandait alors en Provence et à qui j'étais adressé. Monsieur de Montaigu, ne pouvant se passer de moi, m'écrivait lettre sur lettre pour presser mon voyage. Un incident le retarda. C'était le temps de la peste de Messine. La flotte anglaise y avait mouillé et visita la felouque sur laquelle j'étais. Cela nous assujettit en arrivant à Gênes, après une longue et pénible traversée, à une 41 jours. On donna le choix aux passagers de la faire à bord ou au lazaret, dans lequel on nous prévint que nous ne trouverions que les 4 murs, parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de le meubler. Tous choisirent la felouque. L'insupportable chaleur, l'espace étroit, l'impossibilité d'y marcher, la vermine, me firent préférer le lazaret à tout risque. Je fus conduit dans un grand bâtiment à 2 étages, absolument nu, où je ne trouvais ni fenêtre, ni table, ni lit, ni chaise, pas même un escabeau pour m'asseoir, ni une botte de paille pour me coucher. On m'apporta mon manteau, mon sac de nuit, mes 2 malles. On ferma sur moi de grosses portes à grosses serrures, et je restai là, maître de me promener à mon aise de chambre en chambre et d'étage en étage, trouvant partout la même solitude et la même nudité. Tout cela ne me fit pas repentir d'avoir choisi le lazaret plutôt que la felouque. Et comme un nouveau Robinson, je me mis à m'arranger pour mes 21 jours comme j'aurais fait pour toute ma vie. J'eus d'abord l'amusement d'aller à la chasse aux poux que j'avais gagnés dans la felouque. Quand, à force de changer de linge et de harde, je me fus enfin rendu net, je procédai à l'ameublement de la chambre que je m'étais choisie. Je me fis un bon matelas de mes vestes et de mes chemises, des draps, de plusieurs serviettes que je cousis, une couverture de ma robe de chambre, un oreiller de mon manteau roulé. Je me fis un siège d'une malle posée à plat et une table de l'autre posée de champ. Je tirai du papier une écritoire. J'arrangeai en manière de bibliothèque 12 livres que j'avais. Bref, je m'accommodai si bien qu'à l'exception des rideaux et des fenêtres, j'étais presque aussi commodément à ce lazaret absolument nu qu'à mon jeu de paume de la rue Vertelet. Mes repas étaient servis avec beaucoup de pompe. 2 grenadiers, la baïonnette au bout du fusil, les escortaient. L'escalier était ma salle à manger. Le palier me servait de table, la marche inférieure me servait de siège. Et quand mon dîner était servi, l'on sonnait en se retirant une clochette pour m'avertir de me mettre à table. Entre mes repas, quand je ne lisais ni n'écrivais, ou que je ne travaillais pas à mon ameublement, j'allais me promener dans le cimetière des protestants qui me servait de cour, où je montais dans une lanterne qui donnait sur le port et d'où je pouvais voir entrer et sortir les navires. Je passais de la sorte 14 jours et j'aurais passé la 20aine entière sans m'ennuyer un moment. Si monsieur de Jonville, envoyé de France, à qui je fis parvenir une lettre vinaigrée, parfumée et demi-brûlée, n'eût fait abréger mon temps de 8 jours. Je les allais passer chez lui, et je me trouvais mieux, je l'avoue, du gîte de sa maison que de celui du lazaret. Il me fit force caresse. Dupont, son secrétaire, était un bon garçon, qui me mena, tant à Gênes qu'à la campagne, dans plusieurs maisons où l'on s'amusait assez. Et je liais avec lui connaissance et correspondance, que nous entretînmes fort longtemps. Je poursuivis agréablement ma route à travers la Lombardie. Je vis Milan, Vérone, Brest, Padoue. Et j'arrivais enfin à Venise, impatiemment attendu par monsieur l'ambassadeur. Je trouvai des tas de dépêches, tant de la cour que des autres ambassadeurs, dont il n'avait pu lire ce qui était chiffré, quoiqu'il eût tous les chiffres nécessaires pour cela. N'ayant jamais travaillé dans aucun bureau, ni vu de ma vie un chiffre de ministre, je craignis d'abord d'être embarrassé. Mais je trouvai que rien n'était plus simple, et en moins de 8 jours, j'eus déchiffré le tout, qui, assurément, n'en valait pas la peine. Car, outre que l'ambassade de Venise est toujours assez oisive, ce n'était pas à un pareil homme qu'on eût voulu confier la moindre négociation. Il s'était trouvé dans un grand embarras jusqu'à mon arrivée, ne sachant ni dicter ni écrire lisiblement. Je lui étais très utile. Il le sentait et me traita bien. Un autre motif l'y portait encore. Depuis M. de Froulay, son prédécesseur, dont la tête s'était dérangée, le consul de France, appelé M. Leblon, était resté chargé des affaires de l'ambassade. Et, depuis l'arrivée de M. de Montaigu, il continuait de les faire jusqu'à ce qu'il l'eût mis au fait. M. de Montaigu, jaloux qu'un autre fît son métier, quoique lui-même en fût incapable, prit en guignon le consul. Et sitôt que je fus arrivé, il lui ôta les fonctions de secrétaire d'ambassade pour me les donner. Elles étaient inséparables du titre. Il me dit de le prendre. Tant que je restais près de lui, jamais il n'envoya que moi sous ce titre au Sénat et à son conférent. Et dans le fond, il était fort naturel qu'il aimât mieux avoir pour secrétaire d'ambassade un homme à lui qu'un consul ou un commis des bureaux nommé par la cour. Cela me rendit ma situation assez agréable et empêcha ces gentilshommes, qui étaient italiens, ainsi que ses pages et la plupart de ses gens, de me disputer la primauté dans sa maison. Je me servis avec succès de l'autorité qui était attachée pour maintenir son droit de liste, c'est-à-dire la franchise de son quartier contre les tentatives qu'on fit plusieurs fois pour l'enfreindre et auxquelles ses officiers vénitiens n'avaient garde de résister. Mais aussi, je ne souffris jamais qu'il s'y réfugiât des bandits, quoiqu'il m'en eût pu revenir des avantages dont Saint-Ex n'aurait pas dédaigné sa part. Elle osa même réclamer sur les droits du secrétariat qu'on appelait la chancellerie. On était en guerre. Il ne laissait pas d'y avoir bien des expéditions de passeports. Chacun de ces passeports payait 1 sequin au secrétaire qui l'expédiait et le contresignait. Tous mes prédécesseurs s'étaient fait payer ce sequin indistinctement, tant des Français que des étrangers. Je trouvais cet usage injuste, et sans être français, je l'abrogeais pour les Français. Mais j'exigeais si rigoureusement mon droit de tout autre que le marquis Scotti, frère du favori de la reine d'Espagne, m'ayant fait demander un passeport sans m'envoyer le sequin, je le lui fis demander. Hardiès que le vindicatif italien n'oublia pas. Dès qu'on sut la réforme que j'avais faite dans la taxe des passeports, il ne se présenta plus, pour en avoir, que des foules de prétendus Français, qui, dans des baragouins abominables, se disaient l'un provençal, l'autre picard, l'autre bourguignon. Comme j'ai l'oreille assez fine, je n'en fus guère la dupe, et je doute qu'un seul Italien m'ait soufflé mon sequin et qu'un seul Français l'ait payé. J'eus la bêtise de dire à M. de Montaigu, qui ne savait rien de rien, ce que j'avais fait. Ce mot de sequin lui fit ouvrir les oreilles, et, sans me dire son avis sur la suppression de ceux des Français, il prétendit que j'entrasse en compte avec lui sur les autres, me promettant des avantages équivalents. Plus indigné de cette bassesse qu'affecté pour mon propre intérêt, je rejetai hautement sa proposition. Il insista. Je m'échauffai. « Non, monsieur, lui dis-je très vivement, que votre excellence garde ce qui est à elle et me laisse ce qui est à moi. je ne lui en céderai jamais un sou. » Voyant qu'il ne gagnait rien par cette voie, il en prit une autre. Il n'eut pas honte de me dire que, puisque j'avais des profits à sa chancellerie, il était juste que j'en fisse les frais. Je ne voulus pas chicaner sur cet article, et depuis lors, j'ai fourni de mon argent, encre, papier, cire, bougies, non pareilles, jusqu'au seau que je fis refaire, sans qu'il m'en ait remboursé jamais un liard. Cela ne m'empêcha pas de faire une petite part du produit des passeports à l'abbé de Binis, bon garçon, et bien éloigné de prétendre à rien de semblable. S'il était complaisant envers moi, je n'étais pas moins honnête envers lui, et nous avons toujours bien vécu ensemble. Sur l'essai de ma besogne, je la trouvais moins embarrassante que je n'avais craint pour un homme sans expérience, auprès d'un ambassadeur qui n'en avait pas davantage, et dont, pour surcroît, l'ignorance et l'entêtement contrariaient, comme à plaisir, tout ce que le bon sens et quelques lumières m'inspiraient de bien pour son service et celui du roi. Ce qu'il fit de plus raisonnable fut de se lier avec le marquis de Mari, ambassadeur d'Espagne, homme adroit et fin, qui l'eût mené par le nez s'il l'eût voulu, mais qui, vu l'union d'intérêts des deux couronnes, le conseillait d'ordinaire assez bien. Si l'autre n'eût gâté ses conseils en fourrant toujours du sien dans leur exécution. La seule chose qu'ils eussent à faire de concert était d'engager les Vénitiens à maintenir la neutralité. Ceux-ci ne manquaient pas de protester de leur fidélité à l'observer, tandis qu'ils fournissaient publiquement des munitions aux troupes autrichiennes, et même des recrues sous prétexte de désertion. Monsieur de Montaigu, qui, je crois, voulait plaire à la République, ne manquait pas aussi, malgré mes représentations, de me faire assurer dans toutes ses dépêches qu'elle n'enfreindrait jamais la neutralité. L'entêtement et la stupidité de ce pauvre homme me faisaient écrire et faire à tout moment des extravagances, dont j'étais bien forcée d'être l'agent, puisqu'il le voulait, mais qui me rendait quelquefois mon métier insupportable, et même presque impraticable. Il voulait absolument, par exemple, que la plus grande partie de sa dépêche au roi et de celle au ministre fût en chiffres, quoique l'une et l'autre ne contînt absolument rien qui demandât cette précaution. Je lui représentais qu'entre le vendredi qu'arrivaient les dépêches de la cour et le samedi que partaient les nôtres, il n'y avait pas assez de temps pour l'employer à tant de chiffres, et à la forte correspondance dont j'étais chargé pour le même courrier. Il trouva à cela un expédient admirable. Ce fut de faire, dès le jeudi, la réponse aux dépêches qui devaient arriver le lendemain. Cette idée lui parut même si heureusement trouvée, quoique je pusse lui dire sur l'impossibilité et sur l'absurdité de son exécution, qu'il en fallut passer par là. Et tout le temps que j'ai demeuré chez lui, après avoir tenu note de quelques mots qu'il me disait dans la semaine à la volée, et de quelques nouvelles triviales que j'allais écumant par-ci par-là, muni de ses uniques matériaux, je ne manquais jamais, le jeudi matin, de lui porter le brouillon des dépêches qui devait partir le samedi, sauf quelques additions ou corrections que je faisais à la hâte sur celles qui devaient venir le vendredi, et auxquelles les nôtres servaient de réponse. Il avait un autre tic fort plaisant, et qui donnait à sa correspondance un ridicule difficile à imaginer. C'était de renvoyer chaque nouvelle à sa source au lieu de lui faire suivre son cours. Il marquait à M. Amelot les nouvelles de la cour, à M. de Maurepas celles de Paris, à M. d'Avrincourt celles de Suède, à M. de Lachetardy celles de Pétersbourg, et quelquefois à chacun celle qui venait de lui-même, et que j'habillais en termes un peu différents. Comme de tout ce que je lui portais à signer, il ne parcourait que les dépêches de la cour, il signait celles des autres ambassadeurs sans les lire. Cela me rendait un peu plus le maître de tourner ces dernières à ma mode, et j'y fis au moins croiser les nouvelles. Mais il me fut impossible de donner un tour raisonnable aux dépêches essentielles. Heureux encore quand il ne s'avisait pas d'y larder impromptu quelques lignes de son estoc, qui me forçait de retourner transcrire en hâte toute la dépêche ornée de cette nouvelle impertinence, à laquelle il fallait donner l'honneur du chiffre, sans quoi il ne l'aurait pas signé. Je fus tenté 20 fois, pour l'amour de sa gloire, de chiffrer autre chose que ce qu'il avait dit. Mais sentant que rien ne pouvait autoriser une pareille infidélité, je le laissai délirer à ses risques, content de lui parler avec franchise et de remplir au moins mon devoir auprès de lui. C'est ce que je fis toujours, avec une droiture, un zèle et un courage qui méritaient de sa part une autre récompense que celle que j'en reçus à la fin. Il était temps que je fusse une fois ce que le ciel, qui m'avait doué d'un heureux naturel, ce que l'éducation, que j'avais reçue de la meilleure des femmes, ce que celle que je m'étais donnée à moi-même, m'avait fait être, et je le fus. Livré à moi seul, sans amis, sans conseil, sans expérience, en pays étranger, servant une nation étrangère, au milieu d'une foule de fripons, qui, pour leur intérêt et pour écarter le scandale du bon exemple, m'excitaient à les imiter. Loin d'en rien faire, je servis bien la France, à qui je ne devais rien, et mieux l'ambassadeur, comme il était juste, en tout ce qui dépendit de moi. Irréprochable, dans un poste assez en vue, je méritais, j'obtins l'estime de la République, celle de tous les ambassadeurs avec qui nous étions en correspondance, et l'affection de tous les Français établis à Venise, sans en excepter le consul même, que je supplantais à regret dans les fonctions que je savais lui être dues, et qui me donnait plus d'embarras que de plaisir. Monsieur de Montaigu, livré sans réserve au marquis Marie, qui n'entrait pas dans le détail de ses devoirs, les négligeait à tel point que sans moi, les Français qui étaient à Venise ne se seraient pas aperçus qu'il y eût un ambassadeur de leur nation. Toujours éconduit, sans qu'il voulût les entendre lorsqu'ils avaient besoin de sa protection, ils se rebutèrent, et l'on n'envoyait plus aucun, ni à sa suite, ni à sa table, où il ne les invita jamais. Je fis souvent de mon chef ce qu'il aurait dû faire. Je rendis aux Français qui avaient recours à lui et à moi tous les services qui étaient en mon pouvoir. En tout autre pays, j'aurais fait davantage, mais ne pouvant voir personne en place à cause de la mienne, j'étais forcé de recourir souvent au consul. Et le consul, établi dans le pays où il avait sa famille, avait des ménagements à garder qui l'empêchaient de faire ce qu'il aurait voulu. Quelquefois, cependant, le voyant mollir et n'oser parler, je m'aventurais à des démarches hasardeuses, dont plusieurs m'ont réussi. Je m'en rappelle une, dont le souvenir me fait encore rire. On ne se douterait guère que c'est à moi que les amateurs du spectacle à Paris ont dû Coraline et sa sœur Camille. Rien, cependant, n'est plus vrai. Véronèse, leur père, s'était engagé avec ses enfants pour la troupe italienne. Et après avoir reçu 2000 francs pour son voyage, au lieu de partir, il s'était tranquillement mis à Venise au théâtre de Saint-Luc, où Coraline, tout enfant qu'elle était encore, attirait beaucoup de monde. Monsieur le duc de Gèvres, comme premier gentilhomme de la chambre, écrivit à l'ambassadeur pour réclamer le père et la fille. Monsieur de Montaigu, me donnant la lettre, me dit pour toute instruction « Voyez cela ». J'allai chez Monsieur Leblon le prier de parler aux patriciens à qui appartenait le théâtre de Saint-Luc, et qui était, je crois, un Giustiniani, afin qu'il renvoyât Véronèse, qui était engagée au service du roi. Leblon, qui ne se souciait pas trop de la commission, la fit mal. Giustiniani battit la campagne, et Véronèse ne fut point renvoyée. J'étais piqué. L'on était au carnaval. Ayant pris la bahute et le masque, je me fis mener au palais Giustiniani. Tous ceux qui virent entrer ma gondole avec la livrée de l'ambassadeur furent frappés. Venise n'avait jamais vu pareille chose. J'entre, je me fais annoncer sous le nom d'Una Sciora Maschera. Sitôt que je fus introduit, j'ôte mon masque et je me nomme. Le sénateur pâlit et reste stupéfait. Monsieur, lui dis-je en vénitien, c'est à regret que j'importune votre excellence de ma visite, mais vous avez à votre théâtre de Saint-Luc un homme nommé Véronèse qui est engagé au service du roi et qu'on vous a fait demander inutilement. Je viens le réclamer au nom de sa majesté. Ma courte harangue fit effet. À peine étais-je parti que mon homme courut rendre compte de son aventure aux inquisiteurs d'État qui lui lavèrent la tête. Véronèse fut congédiée le jour même. Je lui fis dire que s'il ne partait pas dans la huitaine, je le ferais arrêter. Et il partit. Dans une autre occasion, je tirai de peine un capitaine de vaisseau marchand, par moi seul et presque sans le concours de personne. Il s'appelait le capitaine Olivet de Marseille. J'ai oublié le nom du vaisseau. Son équipage avait pris querelle avec des esclavons au service de la République. Il y avait eu des voies de fait et le vaisseau avait été mis aux arrêts avec une telle sévérité que personne, excepté le seul capitaine, n'y pouvait aborder ni en sortir sans permission. Il eut recours à l'ambassadeur qui l'envoya promener. Il fut au consul qui lui dit que ce n'était pas une affaire de commerce et qu'il ne pouvait s'en mêler. Ne sachant plus que faire, il revint à moi. Je représentai à monsieur de Montaigu qu'il devait me permettre de donner sur cette affaire un mémoire au Sénat. Je ne me rappelle pas s'il y consentit et si je présentai le mémoire, mais je me rappelle bien que, mes démarches n'aboutissant à rien et l'embargo durant toujours, je pris un parti qui me réussit. J'insérai la relation de cette affaire dans une dépêche à monsieur de Maurepas, et j'eus même assez de peine à faire consentir monsieur de Montaigu à passer cet article. Je savais que nos dépêches, sans valoir trop la peine d'être ouvertes, l'étaient à Venise. J'en avais la preuve dans les articles que j'en trouvais mot pour mot dans la Gazette. Infidélité dont j'avais inutilement voulu porter l'ambassadeur à se plaindre. Mon objet, en parlant de cette vexation dans la dépêche, était de tirer parti de leur curiosité pour leur faire peur et les engager à délivrer le vaisseau. Car s'il eût fallu attendre pour cela la réponse de la cour, le capitaine était ruiné avant qu'elle ne fût venue. Je fis plus. Je me rendis au vaisseau pour interroger l'équipage. Je pris avec moi l'abbé Patizel, chancelier du consulat, qui ne vint qu'à contre-cœur, tant tous ces pauvres gens craignaient de déplaire au Sénat. Ne pouvant monter à bord à cause de la défense, je restai dans ma gondole, et j'y dressai mon verbal, interrogeant à haute voix et successivement tous les gens de l'équipage, et dirigeant mes questions de manière à tirer des réponses qui leur fussent avantageuses. Je voulus engager Patizel à faire les interrogations, et le verbal lui-même, ce qui en effet était plus de son métier que du mien. Il n'y voulut jamais consentir, ne dit pas un seul mot, et voulut à peine signer le verbal après moi. Cette démarche un peu hardie eut cependant un heureux succès. Et le vaisseau fut délivré longtemps avant la réponse du ministre. Le capitaine voulut me faire un présent. Sans m'en fâcher, je lui dis, en lui frappant sur l'épaule, « Capitaine Olivet, crois-tu que celui qui ne reçoit pas des Français un droit de passeport qu'il trouve établi soit homme à leur vendre la protection du roi ?» Il voulut au moins me donner sur son bord un dîner que j'acceptai, et où je menais le secrétaire d'ambassade d'Espagne, nommé Cario, homme d'esprit et très aimable, qu'on a vu depuis secrétaire d'ambassade à Paris et chargé des affaires, avec lequel je m'étais intimement lié, à l'exemple de nos ambassadeurs. Heureux, si, lorsque je faisais avec le plus parfait désintéressement tout le bien que je pouvais faire, j'avais su mettre assez d'ordre et d'attention dans tous ces menus détails pour n'en pas être la dupe et servir les autres à mes dépens. Mais, dans les places comme celles que j'occupais, où les moindres fautes ne sont pas sans conséquences, j'épuisais toute mon attention pour n'en point faire contre mon service. Je fus jusqu'à la fin du plus grand ordre et de la plus grande exactitude en tout ce qui regardait mon devoir essentiel. Or, quelques erreurs qu'une précipitation forcée me fit faire en chiffrant, et dont les commis de M. Amelot se plaignirent une fois, ni l'ambassadeur, ni personne n'eut jamais à me reprocher une seule négligence dans aucune de mes fonctions. Ce qui est à noter pour un homme aussi négligent et aussi étourdi que moi. Mais je manquais parfois de mémoire et de soin dans les affaires particulières dont je me chargeais. Et l'amour de la justice m'en a toujours fait supporter le préjudice de mon propre mouvement, avant que personne songeât à se plaindre. Je n'en citerai qu'un seul trait qui se rapporte à mon départ de Venise et dont j'ai senti le contre-coup dans la suite à Paris. Notre cuisinier, appelé Rousselot, avait apporté de France un ancien billet de 200 francs qu'un perruquier de ses amis avait d'un noble vénitien appelé Zanetto Nanni pour fourniture de perruques. Rousselot m'apporta ce billet en me priant de tâcher d'en tirer quelque chose par accommodement. Je savais, il savait aussi, que l'usage constant des nobles vénitiens est de ne jamais payer, de retour dans leur patrie, les dettes qu'ils ont contractées en pays étrangers. Quand on les y veut contraindre, ils consument en tant de longueurs et de frais le malheureux créancier qu'il se rebute et finit par tout abandonner ou s'accommoder presque pour rien. Je priai M. Leblond de parler à Zanetto. Celui-ci convint du billet, non du paiement. À force de batailler, il promit enfin 3 sequins. Quand Leblond lui porta le billet, les 3 sequins ne se trouvèrent pas prêts. Il fallut attendre. Durant cette attente, survint ma querelle avec l'ambassadeur et ma sortie de chez lui. Je laissai les papiers de l'ambassade dans le plus grand ordre, mais le billet de Rousselot ne se trouva point. Monsieur Leblond m'assura me l'avoir rendu. Je le connaissais trop honnête homme pour en douter. Mais il me fut impossible de me rappeler ce qu'était devenu ce billet. Comme Zanetto avait avoué la dette, je priai M. Leblond de tâcher de tirer les 3 sequins sur un reçu ou de l'engager à renouveler le billet par duplicata. Zanetto, sachant le billet perdu, ne voulut faire ni l'un ni l'autre. J'offris à Rousselot les 3 sequins de ma bourse pour l'acquis du billet. Il les refusa et me dit que je m'accommoderais à Paris avec le créancier dont il me donna l'adresse. Le perruquier, sachant ce qui s'était passé, voulut son billet ou son argent en entier. Que n'aurais-je point donné dans mon indignation pour retrouver ce maudit billet? Je payai les 200 francs, et cela dans ma plus grande détresse. Voilà comment la perte du billet valut au créancier le paiement de la somme entière, tandis que, si malheureusement pour lui ce billet se fût retrouvé, il en aurait difficilement tiré les 10 écus promis par son excellence Zanetto Nanni. Le talent que je me crus sentir pour mon emploi me le fit remplir avec goût, et, hors la société de mon ami Cario, celle du vertueux Altuna, dont j'aurai bientôt à parler, hors les récréations bien innocentes de la place Saint-Marc, du spectacle et de quelques visites que nous faisions presque toujours ensemble, je fis mes seuls plaisirs de mes devoirs. Quoique mon travail ne fût pas fort pénible, surtout avec l'aide de l'abbé de Binis, comme la correspondance était très étendue et qu'on était en temps de guerre, je ne laissais pas d'être occupée raisonnablement. Je travaillais tous les jours une bonne partie de la matinée et les jours de courrier quelquefois jusqu'à minuit. Je consacrais le reste du temps à l'étude du métier que je commençais et dans lequel je comptais bien, par le succès de mon début, être employée plus avantageusement dans la suite. En effet, il n'y avait qu'une voie sur mon compte, à commencer par celle de l'ambassadeur, qui se loua hautement de mon service, qu'il ne s'en est jamais plaint, et dont toute la fureur ne vint dans la suite que de ce que, m'étant plaint inutilement moi-même, je voulus enfin avoir mon congé. Les ambassadeurs et ministres du roi, avec qui nous étions en correspondance, lui faisaient, sur le mérite de son secrétaire, des compliments qui devaient le flatter, et qui, dans sa mauvaise tête, produisaient un effet tout contraire. Il en reçut un, surtout, dans une circonstance essentielle qu'il ne m'a jamais pardonnée. Ceci vaut la peine d'être expliqué. Il pouvait si peu se gêner que, le samedi même, jour de presque tous les courriers, il ne pouvait attendre pour sortir que le travail fût achevé. Et, me talonnant sans cesse pour expédier les dépêches du roi et des ministres, il les signait en hâte et puis courait je ne sais où, laissant la plupart des autres lettres sans signature. Ce qui me forçait, quand ce n'était que des nouvelles, de les tourner en bulletin. Mais lorsqu'il s'agissait d'affaires qui regardaient le service du roi, il fallait bien que quelqu'un signât. Et je signais. J'en usais ainsi pour un avis important que nous venions de recevoir de M. Vincent, chargé des affaires du roi à Vienne. C'était dans le temps que le prince de Lobkowitz marchait à Naples et que le comte de Gages fit cette mémorable retraite, la plus belle manœuvre de guerre de tout le siècle et dont l'Europe a trop peu parlé. La vie portait qu'un homme, dont M. Vincent nous envoyait le signalement, partait de Vienne et devait passer à Venise, allant furtivement dans la Bruse, chargé d'y faire soulever le peuple à l'approche des Autrichiens. En l'absence de M. le comte de Montaigu, qui ne s'intéressait à rien, je fis passer à M. le marquis de l'hôpital cet avis si à propos, que c'est peut-être à ce pauvre Jean-Jacques si bafoué que la maison de Bourbon doit la conservation du royaume de Naples. Le marquis de l'hôpital, en remerciant son collègue, comme il était juste, lui parla de son secrétaire et du service qu'il venait de rendre à la cause commune. Le comte de Montaigu, qui avait à se reprocher sa négligence dans cette affaire, crut entrevoir dans ce compliment un reproche et m'en parla avec humeur. J'avais été dans le cas d'en user avec le comte de Castellane, ambassadeur à Constantinople, comme avec le marquis de l'hôpital, quoiqu'en chose moins importante. Comme il n'y avait point d'autre poste pour Constantinople que les courriers que le Sénat envoyait de temps en temps à son bail, on donnait avis du départ de ces courriers à l'ambassadeur de France pour qu'il pût écrire par cette voie à son collègue s'il le jugeait à propos. Cet avis venait d'ordinaire un jour ou deux à l'avance. Mais on faisait si peu de cas de M. de Montaigu qu'on se contentait d'envoyer chez lui, pour la forme, une heure ou deux avant le départ du courrier. Ce qui me mit plusieurs fois dans le cas de faire la dépêche en son absence. M. de Castellane, en y répondant, faisait mention de moi en termes honnêtes. Autant en faisait à Gênes M. de Jonville. Autant de nouveaux griefs.